Voilà. Donc, lorsque Fabrice m'a appelé pour me demander de participer à ces journées, et après que j'ai eu la faiblesse d'accepter, à vrai dire, j'ai un principe, c'est j'accepte de manière un peu bête les propositions de Fabrice, parce que je sais qu'en fait, il y a toujours quelque chose d'intelligent à trouver derrière ce qu'il me demande. Ma première réaction, donc après avoir accepté, ça a été à l'école donc de Fabrice, de traiter de la théologie de la nature, de m'occuper des orchidées qui sont installées dans mon bureau et de semer quelques graines que j'avais à portée de main. Et le soin apporté par ces plantes durant 3 mois. Alors, comme je ne suis pas ni astrophysicien, ni spécialiste des arbres, vous voyez, je n'ai pas sous la main des natures à observer en permanence. Donc, j'ai été obligé d'en trouver. Voilà, j'explique pourquoi je me suis occupé de ces plantes. Et donc, là, j'ai fait 2 constats au terme de ces quelques mois. Le premier, c'est que je vais quand même continuer à m'occuper de faire de la théologie, plutôt. Et le deuxième, c'est que il suffit d'observer une orchidée ou une absinthe qui sont en train de pousser pour savoir ce qu'est une nature et pour savoir qu'elles ont une nature. D'abord parce qu'elles ont des activités bien déterminées, de sorte qu'on ne met pas une orchidée dans son bureau comme pour les mêmes raisons qu'on y met un presse-papier ou un chat. Ensuite, si on veut qu'elles poursuivent leurs activités, ce qui était tout l'enjeu de mes 3 mois, toutes les inquiétudes et les préoccupations de mes 3 mois, c'était qu'elles arrivent à survivre mes soins, c'est qu'il faut s'en occuper. Et on s'aperçoit rapidement qu'une vague connaissance de la nature des plantes en général ne suffit pas. Une vague connaissance générale des plantes, c'est que une plante, bah, il faut de la terre, de l'eau, du soleil. Mais, en fait, quand on a une vraie nature à s'occuper, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, dans ces trois circonstances ou ces trois conditions, connaissent des modalités extrêmement variées et que n'importe quelle plante ne supporte pas n'importe quelle terre, n'importe quelle eau, n'importe quel soleil, à n'importe quel moment, etc. Et donc, par exemple, l'orchidée, j'ai appris ça en la voyant dépérir, l'orchidée ne supporte pas d'avoir ses racines dans l'eau, parce que à ce moment-là, les racines commencent à pourrir. Et si elle manque d'eau, elle se met à développer des espèces de tiges à l'extérieur du pot pour capter l'humidité ambiante. Et cela, l'absinthe ne le fait pas. Donc, j'ai pas essayé avec l'absinthe, mais je sais qu'elle ne le fait pas. Autrement dit, s'occuper d'une plante veut dire apprendre à connaître sa nature et à s'apercevoir que sa nature va jusque dans d'infimes détails qui la différencient de la nature d'à côté. Ici, pour moi, c'était l'orchidée et l'absinthe. Et pourtant, apparemment, c'est quand même que des plantes et ça devrait fonctionner pareil. Et donc, on apprend avec beaucoup de patience ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Et donc, on est obligé de découvrir qu'elles ont une nature. Donc, j'ai découvert la nature, qu'il y avait une nature de l'orchidée, une nature de l'absinthe. Mais je serais assez en peine de vous définir la nature de l'orchidée ou la nature de l'absinthe. Et plus ma découverte de leur nature a progressé, plus ce qu'est une nature m'a paru mystérieux. Parce que finalement, la manière dont elle fonctionne nous est étranger et il faut un long temps d'apprivoisement pour arriver peut-être, j'imagine, à devenir un bon spécialiste de ces plantes. Il se trouve que saint Thomas d'Aquin a bien résumé, je vais pas mal parler de saint Thomas d'Aquin, je suis désolé, a pas mal résumé cette ambivalence, cette conclusion ambivalente. Qu'il y ait une nature, c'est le texte 1, qu'il y ait une nature est évident, per se notum, en tant que les réalités naturelles sont manifestes au sens. Et ça, c'est l'expérience. Donc, du reste, je reprends ici des choses qu'on a évoquées ce matin. Hein. En tant que les réalités naturelles sont manifestes au sens. Hein. Et donc, se confronter à une nature, c'est se la rendre manifeste. Se confronter par les sens. En revanche, ce qu'est la nature de chaque chose ou quel est le principe du mouvement, cela n'est pas manifeste. Des différentes manières d'appréhender la nature, saint Thomas en retient principalement trois. La première, elle est étymologique, et on l'a entendu ce matin, nature vient de naître, la physica, et la nature dit quelque chose qui vient de la naissance, ou ce que Thomas précise, un rapport au principe. Il y a dans la nature quelque chose d'un rapport au principe. Et ce quelque chose appartient, c'est le deuxième aspect, ce quelque chose appartient à l'essence de la chose. C'est ce qui la définit dans ce qu'elle est. Et plus précisément, c'est ce qui la définit quant à son espèce. Et je reviendrai là-dessus. Enfin, troisième manière d'appréhender la nature... La nature indique, et ceci vient d'Aristote, la nature indique un principe de mouvement et de repos qu'une réalité possède en elle-même. C'est ce qui la différencie des choses que l'on fabrique, les artefacts. Un artefact n'a pas en lui-même de principe de mouvement et de repos, mais il utilise les principes de ses composants qui, eux, ont une nature. Alors, si je prends un exemple tout simple, j'ai sous les yeux une nature, enfin plusieurs natures d'ailleurs, des plantes différentes, dont cette lavande, et cette lavande, elle a sa nature, c'est-à-dire elle a son principe de mouvement et de repos en elle-même, qu'elle possède en elle-même. Maintenant, si je prends un artefact, cet ordinateur, vous allez me dire, oui, mais lui aussi, il a son processeur, il a son principe de mouvement. Oui, mais il ne le possède pas en lui-même. Il ne fait que l'hériter de nature qui le compose, qui sont les capacités conductrices du cristal de silice, la conductivité du cristal de silice, et l'énergie du courant électrique. Ce sont ces deux réalités naturelles qui donnent à l'ordinateur d'avoir une activité en lui. Oui. Donc il ne la possède pas par lui-même. La manière dont Thomas explicite cette différence, c'est de dire la nature, elle, son principe de mouvement, il est essentiel, il définit cette nature, la lavande, elle a son principe de mouvement en elle-même, dans ce qui la fait être une lavande, alors que l'ordinateur, lui, a un principe de mouvement par accident, c'est-à-dire au travers des natures qui lui servent, dont il est fait. Et durant les quelques mois de compagnie avec l'orchidée et l'absinthe, j'ai donc pu vérifier qu'elles ont une nature, qu'elles ont cette nature de naissance, hein, l'orchidée et l'absinthe, et qu'elles possèdent ce principe de mouvement et de repos. La nature est donc ce qui définit... ce qui définit les choses naturelles dans leur espèce, et le fait que ça soit lié à leur espèce implique que ça n'est pas lié à l'individu en tant qu'individu. Si je prends une orchidée A et une orchidée B, elles ont une communauté de nature, et même si chacune a son tempérament, eh bien chacune à une activité qui est identique, ou en tout cas semblable, selon l'espèce. De sorte que le spécialiste des orchidées peut dire « je suis spécialiste des orchidées » et non pas de l'orchidée A ou de l'orchidée B. Sinon, non, ça ferait beaucoup de spécialistes. Et donc, la nature, elle est liée à l'espèce, même si elle est toujours dans des individus. On pourra ainsi parler de la nature humaine qui est commune à tous les humains que chaque humain a. On pourra parler de la nature corporelle qui est commune à tous les corps de notre univers. On pourra même parler de la nature de l'étang, c'est-à-dire de tout ce qui est, en tant que c'est commun à toutes les créatures. Ces quelques éléments sur ce qu'est une nature, en fait, permettent déjà de situer la réflexion sur la nature, à la fois donc, cette dimension essentielle, intrinsèque, principe de mouvement, face à, aux deux domaines qui ont une difficulté à percevoir les natures et que l'on a vu depuis deux jours. Le modèle le plus ancien, c'est celui que l'on a vu avec Monsieur Zurcher. Zurcher, voilà. Hein, dans lequel on a vu que c'est un spécialiste des arbres, donc qui est spécialiste de la nature des arbres en général, et j'imagine qu'il connaît ensuite des natures selon des espèces plus particulières. Mais on a vu aussi que sa tendance naturelle dans son exposé, sa tendance est, en regardant ce mystère qu'est la nature de l'arbre, il en cherche des origines, il est conduit à chercher des origines dans de l'invisible et dans des espèces de, soit des structures mathématiques, soit quelque chose d'un... en tout cas, quelque chose qui est antérieur ou qui est au-delà de l'arbre lui-même. Par exemple, on l'a vu sur la dimension cosmique, hein, qu'il essayait de tirer pour expliquer la nature de l'arbre, de le rapprocher d'une nature du cosmos et d'essayer de cerner comment, en fait, l'arbre ferait partie d'un cosmos tout entier. Finalement, l'arbre serait une expression de la nature du cosmos. En tout cas, c'est ce vers quoi on sentait bien que ça pouvait aller. Et puis, l'astronomie et puis la réflexion ce matin sur la révolution scientifique, on a vu que à l'opposé de cela, on avait au contraire une tendance qui rendait la nature évanescente, ou en tout cas qui faisait qu'on n'arrivait plus à l'appréhender. On n'arrivait plus à rendre compte, ou en tout cas à prendre en compte ce que sont les natures. Et à cela, il y a deux raisons. Il y en a une, la seconde qu'a mentionné Olivier, mais je voudrais insister sur la première, qui est que la différence entre nature et artefact s'est effacée. Dans la révolution scientifique, on ne fait plus, après la révolution scientifique, on ne fait plus de différence entre ce qui a une nature et ce qui a un artefact. Si je laisse tomber la fleur et si je laisse tomber l'ordinateur, les mêmes lois de la mécanique s'appliquent. Et la trajectoire est la même, ce que nous a montré très bien hier. Et si je mets la fleur sur l'ordinateur, ça marche pas pareil. Enfin, voilà, c'est un très bon exemple. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la révolution scientifique, elle a consisté à tirer dans toutes les choses qui nous entourent, des natures et des artefacts, des propriétés communes qui sont en fait des propriétés de la nature corporelle. Et ces propriétés de la nature corporelle, puisqu'elles sont présentes dans tous les corps, eh bien, elles vérifient, on va en étudier les constantes, dans tous les corps. Mais ça veut dire que toutes les natures autres que la nature corporelle se mettent à échapper à notre attention. Je me fais comprendre là-dessus, oui. C'est sûr que si je prends la lavande et que je la lâche et que j'étudie les lois de la chute de la lavande, qui en fait sont les mêmes que les lois de la chute de n'importe quoi, eh bien, finalement, ce qu'est une lavande ne m'intéresse plus. Ouais. Et la nature même commence à m'échapper. On le voit, deux petites citations, puisque... D'abord, Francis Bacon, « Ce qui est artificiel ne diffère pas de ce qui est naturel par la forme ou l'essence. » Ici, c'est une rupture décisive avec Aristote, et elle était nécessaire, parce que Aristote, justement, distinguait le mouvement naturel des autres mouvements. Et donc, pour arriver à une physique qui prenne en compte cette distinction, en fait, s'avérait être un obstacle à la compréhension de ce qui était commun à tous les corps. Donc, il fallait faire tomber cette distinction, mais vous voyez que le problème, c'est que dans la phrase de Bacon, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire, il ne dit pas « du point de vue de la physique, ce qui est artificiel ne diffère pas de ce qui est naturel ». Non, non, il en tire une version générale. « Ce qui est artificiel ne diffère pas de ce qui est naturel par la forme ou l'essence ». Et ici, le nominalisme avait joué le rôle de précurseur en expliquant précisément cela. Kepler, en 1605, « La recherche des causes physiques m'occupe beaucoup. Mon but en ceci est de montrer que la nature de l'univers n'est pas semblable à un être animé divin. » Donc, ici, c'est la fascination face au mystère des natures qui conduit à une espèce d'animisme qu'on a vu un petit peu, la tentation avec...
contre Giordano Bruno, carrément, dans cette phrase.
Oui, exactement, voilà. Et donc, exactement, où il s'agit en fait, dans les natures, de ne pas y voir une espèce de mystère qui traverserait les choses et qui nous entraînerait dans l'ésotérisme. Donc, on refuse cette conception animiste de la nature, mais en même temps, on sent bien que le mystère, tout d'un coup, est raboté à l'os, puisque il ne reste plus finalement. L'univers n'est pas semblable à un être animé divin, mais semblable à une horloge, c'est-à-dire à un artefact. Hein. Et donc, ce qui était naturel se trouve tout d'un coup assimilé à de l'artefact, et donc le mystère disparaît. Le mystère que moi, qui m'a fasciné quand même, l'orchidée, pendant quelques mois, et dont mes sens me disent, là, il y a quelque chose de mystérieux. Le deuxième aspect, la deuxième raison, ça a été de cette perte, ça a été que nous ne regardons plus les fins des mouvements, et ça, Olivier a insisté ce matin là-dessus. Une nature, c'est ce qui va dans le même sens, c'est ce qui est tendu dans la même direction, c'est ce qui va vers les mêmes effets. Autrement dit, la particularité d'une nature, si je puis dire, c'est qu'elle rend les choses ordinaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Ordinaires au sens où elles ne m'étonnent plus, puisqu'elles agissent toujours de la même manière. Autrement dit, les mouvements naturels ont une issue récurrente, et donc prévisible, du moins la plupart du temps. Et d'où cette affirmation de Thomas, qui affirme, le texte 4, qui affirme que la nature n'agit pas en vue d'une fin, détruit la nature et ce qui est selon la nature. C'est la non-prise en compte de cette directivité de l'activité des choses naturelles implique que la destruction du sens de la nature. Maintenant, voici comment Thomas... Oups. Voici comment Thomas envisage cette différence de la nature avec les artefacts ou les fruits de l'art. Le texte 6. On voit que la nature ne diffère en rien de l'art, si ce n'est parce que la nature est un principe intrinsèque et l'art est un principe extrinsèque. La nature n'est rien d'autre que la raison d'un certain art. La raison, c'est-à-dire quand vous pensez quelque chose pour le faire, il y a en vous la raison de cette chose que vous vous proposez de faire. Et faire ici, c'est selon l'art. Hein. Donc l'art a sa raison et on va introduire cette raison pour faire la chose. Donc la nature n'est rien d'autre que la raison d'un certain art, à savoir l'art divin qui est inscrit dans les choses, par laquelle les choses mêmes sont mues à une fin déterminée. C'est comme si l'artisan fabricant du navire, pouvait conférer au bois d'être mu de soi-même en vue d'introduire la forme du navire. Ce texte, il est déterminant pour bien comprendre ce que, tout ce que je vais dire derrière, sur la théologie de la nature. C'est que la différence entre l'artisan divin et nous-mêmes, c'est que nous, nous ne fabriquons pas des natures. Nous utilisons des natures. Autrement dit, nous agissons à la surface des choses et non pas dans ce qui fait leur mystère propre. Et Dieu, au contraire, c'est celui qui agit en faisant des choses un mystère. Et la manière dont Thomas l'explique, l'image, je trouve, elle est magnifique, hein, de se dire, bah, prenez un fabricant de bateau, hein, qui assemble ces bouts de bois, bah, Dieu, la manière pour lui de fabriquer un bateau, c'est de faire des planches qui s'assemblent toutes seules pour faire un bateau. Oui. Et ça, c'est ça une nature. Alors, pour envisager ce qu'est la nature ou ce que sont les natures du point de vue de Dieu, il faut donc repartir, se placer, ce qui est le propos de la théologie, hein, considérer la créature du point de vue de Dieu. Et du point de vue de Dieu, ce que nous voyons, c'est que Dieu fait des choses, agit. Autrement dit, il y a des actions divines qui sont à la source des natures telles que nous les voyons. La lavande ici est le résultat, l'effet d'actions divines, telle que je la vois là, en ce moment. Et dans ces actions, Thomas va distinguer un ordre d'actions, trois grandes actions, qu'il va distinguer selon un ordre de nature, selon ce qui est le plus fondamental dans la nature et ce qui vient se rajouter au-dessus. La première action, c'est celle de créer. La deuxième action, c'est celle de distinguer. La troisième action, c'est celle de gouverner. Je prends l'exemple de Genèse 1.11. Donc, texte 7, Genèse 1.11, Dieu dit « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et il en fut ainsi. Dans cette petite phrase du troisième jour, nous avons d'abord la première action divine qui s'identifie dans le fait que Dieu dit, et il en fut ainsi. Dieu dit que la terre produise, et il en fut ainsi. Ça, c'est l'acte le plus fondamental que l'on va voir. Deuxième acte, l'action de distinguer dans ce texte, elle est signifiée à deux niveaux par le texte. D'une part, elle est signifiée par le fait que tout cela arrive le troisième jour. C'est-à-dire que ce qui arrive le troisième jour est distingué de ce qui arrive le deuxième et de ce qui arrive le quatrième. Et ce qui arrive le troisième jour possède une cohérence. Ce sont des natures d'un type bien particulier qui sont faites le troisième jour. Et puis, deuxièmement, il y a dans le texte la distinction d'une nature d'herbe. La nature d'herbe, elle est faite pour porter sa semence, différente de la nature d'arbre qui est faite pour donner du fruit. Et puis enfin, le texte rajoute un troisième degré de distinction, c'est que dans les herbes et dans les arbres, il y a des différences d'espèces. Il y a plusieurs espèces d'herbes qui portent chacune une semence particulière, plusieurs espèces d'arbres qui portent chacun un fruit particulier. Et chacun engendre selon son espèce. Enfin, donc ça c'est l'action divine de distinguer. Enfin, la troisième action divine, elle nous est indiquée dans le fait que, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le verset d'après. Dans le verset d'après, il est dit que la terre se met à verdoyer. Hein, et c'est-à-dire que ce qui est distingué, chacun selon son espèce, eh bien Dieu les conduit à leur activité propre, chacune selon son espèce, de sorte que non seulement il y a des plantes, il y a des herbes et des plants et des arbres, mais que ces herbes et ces arbres se mettent à se propager, à se multiplier, et que la terre verdoie. Donc, voyons ces trois actions. Et d'abord, l'action divine de créer. Dans l'action divine de créer, nous nous plaçons ici dans le cadre de la foi catholique. C'est-à-dire que cet acte de foi au fait que, en ce que Dieu est le principe premier et exclusif de tout ce qui est. Et ceci, c'est un des éléments centraux de la confession du monothéisme juif. Hein? Il y a Dieu d'un côté, et tout le reste, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, il faut savoir, quand on parle d'une chose, est-ce qu'on parle de Dieu, ou est-ce qu'on parle de tout le reste? Si on parle de n'importe quoi qui est dans tout le reste, c'est fait, y compris les dieux. Hein? Quand on parle dans la Bible, les dieux sont du côté des créatures. Les dieux des nations, etc. Si on s'interroge sur ce que signifie cet acte dans lequel toutes les choses et tout de la chose dépend de Dieu, on peut dire que créer, c'est donner l'être, tout simplement. Donner à une chose d'être. Mais rien qu'en disant cela, on affirme quelque chose de très important, à savoir que si Dieu fait tout et tout dans les choses, toute chose et tout dans les choses, si il n'y a que lui face à ses créatures, eh bien, il n'y a pas de nature préexistante. Il n'y a rien avec lequel Dieu fait les choses et qui préexisterait aux choses. Et ceci implique l'exclusion de tout animisme ou de toute divinisation de la nature. La nature ne peut pas être divine dans le christianisme, parce qu'elle est faite comme tout le reste. La nature, elle est certes un principe qui s'impose aux hommes, qui s'impose à toutes les choses de la terre, mais elle est un principe qui ne s'impose pas à Dieu, au contraire, c'est Dieu qui fait la nature. Les philosophes païens sont, pour Thomas, les représentants de cette erreur, consistant à dire que Dieu n'est pas tout-puissant, mais qu'il peut seulement faire ce qui se fait naturellement, ce qui se fait avec la nature qu'on a. Autrement dit, Dieu serait lui aussi soumis à la nécessité de la matière. Et à leur encontre, Thomas rappelle, donc le psaume 113, « Tout ce qu'il veut, le Seigneur le fait ». Alors, après notre réflexion de ce matin sur les nominalistes, j'insiste sur l'interprétation de « tout ce qu'il veut ». Si vous êtes infecté de nominalisme, ce qui vous marque dans cette phrase, c'est « Ah ben Dieu, il fait vraiment tout ce qu'il veut hein ». Ça veut dire que vous êtes un bon nominaliste. Si, au contraire, vous êtes un chrétien normal, eh bien, et que vous savez lire la Bible, eh bien, au contraire, ce qui vous fascine dans cette phrase, c'est que, en fait, tout ce qui est, tout ce qui nous entoure, dépend et provient de ce que Dieu l'a voulu. Et c'est ça qui compte. De même, alors, oui. Donc, exclusivité du Créateur. L'exclusivité du Créateur implique que l'action de créer revient à Dieu seul. Il n'y a rien d'autre qui crée. Aucun autre principe dans le monde ne peut créer. Cela est réservé à Dieu, parce que seul Dieu peut donner l'être à une chose. De sorte que la matière va devenir... La création de la matière devient, dans le christianisme, une question centrale. Pour le chrétien, la matière est créée par Dieu. La matière n'est pas quelque chose qui préexiste ou avec lequel Dieu s'arrange. C'est lui qui fait tout dans les choses, y compris leur matière. Et voyez bien que S'il n'en était pas ainsi, eh bien, cette matière serait une nature pour les choses. Et cette matière serait un coprincipe avec Dieu. Autrement dit, cette matière serait divinisée. Les sources du paganisme qui vient du constat de tous les hommes face aux natures, qui se confrontent aux natures, c'est la tentation de renvoyer toutes ces natures qu'ils côtoient à un principe premier qui serait la nature, autrement dit, cette matière à l'origine des choses. Et avec cette conséquence, c'est que si la matière était co-principe des choses, eh bien, les natures seraient gouvernées par le hasard, car la matière fonctionne par hasard. Hein, c'est sa manière d'être ordonnée à l'apparition des choses, c'est qu'elle obéit, elle n'a pas de principe interne, la matière, elle obéit simplement au hasard. Donc, partout où vous voyez réapparaître un principe de l'ordre du monde qui serait le hasard, vous pouvez soupçonner une résurgence de l'animisme. Ce qui n'est pas tout à fait toujours évident, mais ce qui est vrai quand même. Une deuxième conséquence de cette création, de cette foi en la création, c'est que Dieu crée les choses de rien. C'est-à-dire que tout ce qu'il va, tout ce qui est, vient de Dieu et n'était pas. Autrement dit, cela implique que dans les discussions avec notamment aujourd'hui ce qu'on entend sur toutes les théories scientifiques, notamment sur la jeunesse du monde, l'origine du monde, etc., toutes ces explications pour nous ne nous font ni chaud ni froid. Pourquoi ? Parce que tout cela se base sur des changements ou des mouvements. Par exemple, la théorie du Big Bang, c'est la théorie d'un... Alors, je ne vais pas... Hugo va refaire l'explication. Mais en tout cas, c'est une théorie, comme on l'a vu, hein, qui part d'une réalité, mais qui est déjà existante, et qui explique comment, à partir de là, on arrive à ce que nous sommes. Oui. Mais donc, il est illusoire de pouvoir expliquer la moindre création à partir de ça, puisque on présuppose qu'existe quelque chose. Oui. La création, la création de Dieu, c'est une création de rien. Et de la même façon, dans le dernier livre de Stephen Hawking, explique que la nature, et il fait toute une théorie là-dessus, pour expliquer comment la nature s'est auto-engendrée, le monde s'est auto-créé. Et il fait la fonction d'onde, enfin bref, tout est... Voilà. Donc c'est très bien fait, mais c'est inopérant dès la racine. Il présuppose qu'il y a quelque chose. Oui. Deuxièmement, Dieu agit par volonté et selon sa sagesse. Ici, c'est un deuxième aspect de notre foi, c'est que la création vient de Dieu, elle est faite par Dieu, mais qu'elle est une émanation qui n'est pas une émanation de nature, mais une émanation par la volonté divine. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Une émanation qui n'est pas par la nature, mais qui est selon la volonté. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela change radicalement la manière d'envisager l'origine des natures. Si nous prenons la thèse d'une émanation de nature, que l'on retrouve dans de grandes traditions, que ce soit dans le néoplatonisme, que ce soit dans l'Inde, dans les traditions de l'Inde, eh bien, dans ces traditions, les natures qui émanent vont ressembler à la nature originelle, à la manière dont un fleuve, ou une source, si vous voulez, qui s'épanche et qui se diffuse, ou à la manière d'une mer qui s'agite et avec des gouttelettes qui sortent et qui reviennent et qui se fondent dans la mer. Autrement dit, les natures, à ce moment-là, sont des parcelles, des parties de la divinité, et des parties dont il va falloir expliquer l'imperfection, et généralement sous le mode de la dégradation. C'est-à-dire que pour expliquer que les choses émanent par nature, eh bien, il faut en même temps expliquer leur fragilité, leur limitation, leur imperfection. De sorte que dans les traditions qui pensent le rapport au principe comme étant un rapport d'émanation de nature, c'est indissociable avec une vision négative des natures. La nature, c'est un mal, c'est une dégradation, ou en tout cas, c'est porteur de quelque mal. Maintenant, si nous nous plaçons donc du point de vue de ce qu'est l'affirmation de notre foi, eh bien, l'affirmation de notre foi, c'est que Dieu a fait les choses à la manière d'un artisan qui pense et qui veut ce qu'il fait. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tout ce que l'on va trouver dans les choses, dans les natures, ce sont des ressemblances de Dieu, des ressemblances de la nature divine, non pas parce qu'elle se serait sortie de la nature divine, mais parce que la nature divine a été conçue par Dieu comme imitable. Dieu connaît sa nature comme participable par d'autres créatures, par ses créatures. Et donc, il va penser les créatures comme des participations à ses propres perfections à lui. La manière pour Dieu de donner à d'autres, de donner dans d'autres, des ressemblances de sa propre perfection. Et de même, c'est par amour de sa propre bonté, c'est-à-dire de la bonté de sa nature, que Dieu veut les créatures, c'est-à-dire comme participant à quelque chose de cette bonté ou de cette perfection. Autrement dit, ce qui intéresse Dieu dans les créatures, c'est de leur partager, de leur faire connaître, de leur d'insérer en elles quelques ressemblances de lui-même. Et c'est en cela que les natures sont mystérieuses. Hein, quand on regarde une orchidée, et quand on prend le temps de s'occuper d'une orchidée, ce qu'il y a d'incompréhensible dans l'orchidée, dans la manière dont elle fonctionne, eh bien, nous indique en quoi elle est une ressemblance de la nature divine. Je ne vais pas trop m'attarder. Oui, j'ai encore un peu de temps. Oui, pardon. Les natures que Dieu crée, point suivant, sont faites pour opérer. Si on repart de ce que j'ai dit de la participation des natures à Dieu par le fait qu'elles sont conçues dans la connaissance de Dieu comme des manières de représenter la perfection de l'essence divine ou de posséder une bonté propre en représentation de la bonté de Dieu, eh bien, chaque nature possède une similitude de cette sagesse et de cette bonté, une similitude de la nature divine, pensée, connue et aimée. Et cette similitude, elle est comme, si vous voulez, l'éclat pur de la perfection de Dieu qui se diffracterait dans un nombre incalculable d'espèces, de natures différentes, qui chacune possède quelques reflets de la perfection de Dieu. De sorte que les natures, elles ont en elles cet éclat et quelque éclat de la perfection divine, à la fois dans ce qu'elles sont, dans leur forme, mais aussi dans leurs activités. Et c'est ce que montre la notion de nature de manière tout à fait particulière. Quand je parle de la forme d'une chose, par exemple de la forme de ce brin de lavande ou la forme de la lavande, hein, je parle de ce qu'il a fait être comme lavande. Et que Dieu a pensé, Dieu a voulu la lavande pour elle-même, et il a voulu qu'elle ait cette forme avec ses clochettes, etc. Mais ce qui en fait une nature proprement dite, c'est qu'elle ne se contente pas d'être là comme ça, comme l'ordinateur est là, qui est tout bête, l'ordinateur. Alors que la lavande, elle, même coupée, elle est encore en train d'assimiler de l'eau. Elle est encore en train d'essayer de continuer à faire avec le peu qu'elle a, là, qu'on lui donne. D'ailleurs, moi aussi. Le peu qu'elle a, et elle essaye de continuer à faire ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire à pousser des fleurs. Hein ? Et on la voit actuellement, là, elle est sous nos yeux, cette nature est en train de nous montrer ce qu'elle sait faire. Et donc, les natures ont cette consistance propre. Voyez le texte 16. La nature propre de chaque chose trouve sa consistance selon qu'elle participe à la perfection divine par quelque mode. Et pour Dieu, créer une nature, cela va consister donc à avoir non seulement une forme, mais aussi à avoir en soi des capacités au mouvement, des dispositions au mouvement. Et cela va depuis les particules élémentaires ou les champs quantiques, jusque aux anges. Toutes les créatures sont, de ce point de vue, faites sur le même modèle. Elles ont une forme, une certaine perfection que l'on voit ici, par exemple, dans la lavande, le propre de ce qu'il y a de beau chez les plantes, c'est qu'elles sont toujours soucieuses de montrer, elles sont sincères. Elles montrent toujours, elles extériorisent tout ce qu'elles ont de plus beau. Et donc, quand on voit une plante, on voit la forme que Dieu a voulu donner à cette nature. Mais toutes ces plantes, depuis les champs quantiques jusqu'aux anges, ils ont aussi des dispositions internes, des déterminations internes qui les rendent propres à une certaine activité. Le champ quantique électronique, il a des propriétés particulières qui le rendent, qui le disposent à une certaine activité. Et l'ange, de son côté, a une nature particulière d'intellect qui le dispose à l'activité d'un intellect pur. Et ces dispositions, viennent s'ajouter à ces dispositions une disposition fondamentale qui est que, du fait de leur création, toutes les créatures ont une tendance vers leur bien. Elles sont attirées par le bien. C'est ce que Thomas appelle un appétit. Toutes les choses sont en appétit du bien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'elles réagissent toutes à l'attrait du bien divin, de Dieu, qui rayonne sur toute la création, et qui est pour elles comme le soleil pour le tournesol. C'est-à-dire ce qui les attire à chercher une perfection qu'elles n'ont pas encore. De sorte que toutes les natures sont faites pour opérer. Elles ont en elles, et c'est ce qui fait nature, nature principe de mouvement et de repos, c'est ce qui fait que définir une nature, c'est qu'elle est une disposition à l'activité. Et que l'on trouve dans toutes les créatures. J'en passe maintenant, les textes 18 et 19. Texte 18, les vertus, c'est-à-dire ou les puissances, ou les facultés, ou les dispositions, si vous voulez, par lesquelles la nature opère, sont inscrites dans les choses, c'est ça ce qui fait une nature, par l'œuvre de création de la nature. L'œuvre de création de la nature consiste précisément pour Dieu à inscrire des dispositions à une certaine activité, selon leur forme, selon ce qu'elles sont, chacune à sa mesure. Le texte 19, la nature opère d'une seule et même manière, à moins qu'elle ne soit empêchée, parce que, encore une fois, cette nature, elle a des dispositions qui la déterminent à un certain type d'activité. L'électron est déterminé à être excité d'une certaine manière et à transmettre de l'énergie d'une certaine manière, et l'ange est déterminé à connaître et à aimer Dieu et tout ce que fait Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes déterminés à vouloir le bien. Nous ne pouvons pas ne pas vouloir le bien. Même quand nous voulons faire le mal, c'est toujours pour un bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, maintenant, j'en passe à l'action divine de distinguer des natures. Il faut prendre en compte que... je lis le texte. Il faut prendre en compte que pour la production d'une chose par une idée, un modèle est nécessaire. Donc, on se place dans la position de l'artisan qui pense faire une chose, qui se fait une idée de la chose. Et ce que Thomas dit ici, c'est que pour avoir cette idée, il faut un modèle. Il faut agir selon un modèle, afin que l'effet suive une forme déterminée. Et cette idée va servir de modèle pour toutes les choses que l'on fait. En effet, l'artisan produit une forme déterminée dans la matière à cause du modèle auquel il se réfère, qu'il s'agisse d'un modèle extérieur sur lequel il fixe son regard, ou bien d'un modèle qu'il conçoit intérieurement par l'esprit. Or, il est manifeste que les choses qui arrivent naturellement suivent des formes déterminées. Cette détermination des formes, il faut la ramener comme à un premier principe, à la sagesse divine qui a pensé l'ordre de l'univers, ce en quoi consiste la distinction des choses. Je répète. Donc, Thomas, ici, explique. Voilà, vous pensez, il y a un artisan. Un artisan, il va penser les choses selon un exemplaire. Et cet exemplaire va servir à façonner les choses, va servir de modèle pour les choses. Et de sorte que si dans le monde nous voyons des formes qui sont déterminées, il faut, si nous voyons de la lavande le tilleul dehors, il faut que ces deux formes, la forme de lavande, la forme de tilleul, il faut qu'elles aient été conçues dans l'esprit d'un artisan, et cet artisan ne peut être que la sagesse divine qui a pensé l'ordre de l'univers, ce en quoi consiste la distinction des choses. Et donc, dans le récit de la Genèse, les six jours, mais dans toutes les autres évocations de la distinction qu'on trouve dans la Bible, eh bien, on voit comment la révélation nous présente la sagesse divine comme concevant un univers de choses et de choses distinctes. Dieu ne pense pas simplement des individus, il pense univers. Et il pense univers... où chaque chose a sa place et son rôle. C'est pourquoi il faut dire que dans la sagesse divine, il y a des raisons de toutes les choses que nous avons appelées des idées, c'est-à-dire des formes exemplaires existant dans l'esprit divin. Ces idées, bien qu'elles soient multipliées selon le rapport aux choses, ne sont cependant en réalité pas autres que l'essence divine. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Selon que sa similitude peut être participée par des réalités diverses et de diverses manières. Je vous dis, c'est Dieu connaissant sa nature, connaît dans sa nature qu'il connaît, toutes les participations possibles dans lesquelles il peut diffracter sa perfection. Et donc, cette diffraction de cette connaissance de sa nature, eh bien, ce sont des idées distinctes qui sont qui une lavande, qui un tilleul, qui un chat, qui un homme. Alors, cette distinction, d'abord, il faut bien prendre selon qu'elle est dans des natures particulières. Dieu pense des natures. Une idée, une forme, c'est une forme d'une nature, qui fait une nature. Et donc, Dieu pense la nature humaine, comme étant une manière d'être, de représenter à la fois sa perfection et sa bonté. Et la nature humaine va posséder en elle cette similitude particulière qui la distingue du chat, de la loutre ou de la lavande. Pourquoi j'ai pensé à la loutre ici, je ne sais pas. Je ne regarde personne. Et cette similitude, elle n'est pas statique, mais elle est opérative parce que Dieu est acte. Voici, excusez-moi. Cette similitude, elle se fait dans deux. Elle va se multiplier de deux manières. Elle va se multiplier soit par des natures distinctes, c'est-à-dire des idées distinctes ou des formes distinctes, soit elle va se multiplier par la matière dans des individus distincts. Donc, nous sommes une nature, la nature humaine, mais il y a ici la nature de lavande qui est une autre nature. Ça, ce sont des distinctions de nature distinctes. Maintenant, dans la nature humaine, un seul homme ou une seule femme ne suffit pas à épuiser tout ce qui est possible dans la nature humaine. Et donc, la nature humaine, elle va exister dans un très grand nombre d'individus qui seront individualisés par leur matière, dans une matière, en tout cas pour l'homme. Autrement dit, vous avez une multiplication par la quantité et une multiplication par les formes. J'insiste là-dessus parce que dans le regard que nous avons eu hier de l'astronome et qui est tout à fait fascinant, j'avais vu il y a quelques années, la NASA avait même fait un film, il me semble que c'est la NASA, où on partait de la Terre comme si on était dans un vaisseau. Et puis on quittait la Terre, et puis petit à petit, on s'éloignait jusqu'au bout de ce qu'on estime être, jusqu'au fond de l'univers, quoi, si je puis dire. Hein. Bien. Jusqu'au moment où on touche le ciel empyré, comme disaient les anciens. Et c'était vertigineux. Et surtout, c'était vertigineux, mais enfin, hier, c'était...
Hubble Space Telescope.
Voilà, c'est ça. Et hier c'est à chaque fois vertigineux, c'est-à-dire que on se dit, mais c'est pas possible, ça s'arrête tout. Hein. On a 3000 années-lumière. Ah oui, mais non, là, 80 000 années-lumière. Ah oui, non, mais là, c'est 300 000 années-lumière. Vraiment. Et donc, cette amplitude et cet infini de l'espace, c'est ce qui effrayait totalement Pascal. Mais Pascal, il avait des raisons. Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait... Là, il aurait eu des sueurs froides face à un tel, face à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, ça n'est qu'un nombre incalculable selon la quantité. Ouais, selon la quantité. Selon la quantité, c'est pas grand-chose de rajouter 3-4 planètes de plus ou 3-4 systèmes solaires de plus. Voyez, c'est qu'un problème de quantité au sein d'une espèce, d'une nature. Dans le bac à sable en bas, enfin je sais pas s'il y en a un, mais ici il y a un bac à sable, c'est pas grand-chose de rajouter 3 grains de sable. Mais en revanche, ça fait une grosse différence s'il y a un bac à sable ou pas de bac à sable. De même, ça n'est pas grand-chose qu'il y ait des milliards de milliards d'étoiles. Pas grand-chose. En revanche, c'est très important qu'il y ait des étoiles dans l'univers. Ça participe à la perfection de l'univers. Donc, vous voyez la différence entre la multiplicité des natures et la multiplicité de la quantité. Ça ne veut pas dire que la multiplicité de la quantité, elle est négligeable, mais qu'il ne faut pas se laisser impressionner. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y ait des anges. Et ça, c'est impressionnant. C'est une autre nature distincte de nous et qui vient compléter l'univers. Et qui est autrement plus intimidante que l'espace infini.
Ce que les humains ne pouvaient pas savoir, c'est que toute cette immensité de nombre était quand même nécessaire.
Tout à fait.
Pour en arriver ici aujourd'hui.
Alors c'est ça, tout à fait. J'y viens, en fait, c'est l'autre aspect.
Thomas ne le savait pas.
Tout à fait. La manière dont Thomas appréhende les natures, c'est de les considérer à la manière des nombres. Et ici, je prends le texte... à la manière des nombres. C'est-à-dire que entre un... Enfin, voilà, j'ai, le problème, c'est que j'ai deux mathématiciens en face de moi, ils vont me tuer. Entre 1 et 2, ou entre 2 et 3, ou entre 3 et 4, oui, ce sont des nombres. Mais... alors voilà, c'est, ça, c'est là où ça, ça devient ridicule. C'est, alors on va prendre dans l'ensemble des nombres entiers, je précise, voilà, je me situe dans l'ensemble des nombres entiers, voilà, dans l'ensemble des nombres entiers. Oui. Ce qui fait entre 1 et 2, il y a une gradation, un degré, qui fait qu'il y a une différence, oui, d'une espèce à une autre. Bien. Et ce qui fait une espèce dans sa définition, c'est que si elle est changée dans sa manière d'être, dans ce qui la fait espèce, eh bien, elle devient une autre espèce. Oui. Si je rajoute une unité à 3, j'arrive à 4 et j'arrive à un autre nombre. Oui. Et autrement dit, les espèces, les natures plus exactement, elles se distinguent les unes par rapport aux autres, à la fois avec une certaine continuité, on est dans des nombres, on a toute une variation au sein des espèces, et on a montré, et la science aujourd'hui montre avec tout ce que l'on veut de détails, comment les espèces ont une infinie souplesse, oui, mais il y a un moment où on passe d'une espèce à une autre. Il y a des seuils. Et ces seuils correspondent à des changements dans la substance de ce qu'est l'espèce, dans la substance de la nature. Donc, et ce qui est propre aux natures, c'est que elles sont là pour que tout ce qu'elles sont serve. Toute leur disposition est là pour servir. Par exemple, nous avons une intelligence... C'est pour s'en servir. Ouais. Donc c'est ce que je dis chaque fois que je rencontre quelqu'un maintenant qui me sort un raisonnement woke, un jeune qui me ressort ce qu'il a entendu avec, vous savez de quoi, voilà. Je lui demande à chaque fois, je peux pas m'empêcher maintenant. Je lui demande, est-ce que c'est parce que tu as déjà arrêté de penser ou est-ce que c'est parce que tu commences juste à penser, hein, que tu me sors des slogans qui en fait ne reflètent absolument pas une pensée personnelle, mais simplement l'écho en toi de la société. Et donc, à quel moment est-ce que tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné, qui est une intelligence ? Commence à penser par toi-même. Et donc, tout ce que Dieu donne à une nature est fait pour servir au bien de l'univers. Celle-ci me conduit à l'univers de nature. Un univers de nature. Voici ce que Dieu, ce que saint Thomas dit à propos de Dieu constituant l'univers des natures. Texte 25. Dieu produit les choses dans l'être pour communiquer sa bonté aux créatures et pour être représenté par elles. Et puisqu'il ne peut être suffisamment représenté par une seule créature, même la Vierge Marie ne suffit pas à représenter parfaitement, et même le Christ ne suffit pas dans son humanité, hein, l'humanité du Christ, ne suffit pas à représenter toute la perfection divine. Il a produit de nombreuses créatures et les a produites diverses, afin que ce qui manque à l'une dans la représentation de la bonté divine soit complété par d'autres. Car la bonté qui est en Dieu est de manière toute simple et d'une seule forme, est dans les créatures de manière multiple et divise. De là, c'est l'univers tout entier qui participe d'une manière plus parfaite la bonté divine et la représente plus que n'importe quelle autre créature. Ceci, c'est un élément très important de la foi chrétienne, qui est que face à l'individualisme qui est le propre de notre culture, nous appartenons d'abord à un univers. Et toutes les créatures sont conçues et voulues pour s'insérer dans un univers et pour avoir un rôle dans l'univers. Toutes. Et ceci, on le voit à deux niveaux. Le premier niveau, qui est le plus fascinant, c'est que des natures servent à en faire d'autres, à en constituer d'autres, plus exactement. En l'occurrence, dans mon corps, pour faire ma nature humaine, dans mon corps, il se trouve que j'ai un empilement de natures élémentaires de champs quantiques qui sont eux-mêmes assumés dans des atomes, et j'ai des atomes en moi, qui sont eux-mêmes assumés dans des formes qui sont des composés organiques, je suis rempli de composés organiques, qui sont eux-mêmes assumés dans une vie de type végétative, et j'ai en moi tout ce qu'il faut pour une vie végétative comme à la manière d'une plante, qui sont en moi assumés dans une vie de type animal, et j'ai des sens animaux et j'ai des passions animales, et qui sont enfin assumés, vous voyez ? Et c'est comme si l'homme, dans un homme, vous voyez récapituler une espèce de micro-univers, c'est un thème médiéval, c'est ancien, de l'homme microcosme, c'est-à-dire que dans l'homme, vous voyez que sont insérées des natures de toutes les strates qui viennent se composer pour constituer une nature supérieure, une nature plus parfaite. Et donc, les choses sont destinées à faire un univers, non seulement parce qu'elles sont rassemblées dans un univers, mais plus profondément, dans leur nature même. Les natures s'emboîtent les unes dans les autres, selon des degrés de perfection. Et maintenant, deuxième aspect de cet univers, c'est un univers aussi dans lequel toutes les natures, chacune à son niveau, fait ce qu'elle a à faire et ça sert aux autres. C'est-à-dire que l'univers est non seulement dans l'emboîtement des natures, mais dans l'emboîtement des activités selon les natures. Et ça, pour le coup, c'est ce que l'on a vu hier, c'est combien il faut cet univers immense pour aboutir à l'homme et pour faire l'homme et pour faire un monde selon le dessein que Dieu a voulu. Alors, un dessein à la fois pour manifester sa bonté, mais aussi en vue de ce vers quoi Dieu conduit l'univers. D'où le fait notamment que les choses, et ça c'est Thomas justifie ici de cette manière une certaine fixité des natures. Voyez donc le texte 27, il revient à la providence divine que chaque chose soit laissée dans sa nature, car comme le dit Denis, le pseudo-Denis, ou Denis le pseudo-Aéropagite, la providence n'est pas corruptrice de la nature, mais au contraire préservatrice de la nature. Et donc, pour Thomas, il faut que les natures, la providence les maintienne avec une certaine fixité, ça n'empêche pas tout ce que l'on peut découvrir du point de vue scientifique, mais avec une certaine fixité, parce que la providence n'est pas là pour détruire ce que Dieu a fait quand il a distingué les natures, mais au contraire, pour que ça serve au bien de l'univers. Je finis. J'ai un quart d'heure ? Ai-je un quart d'heure ? Oui ? Je ne vous ai pas épuisé encore ? Donc, par l'action divine de gouverner. C'est la troisième des actions de Dieu. Dieu donc donne l'être à toute chose et sans nature préexistante. Il distingue les natures, il pense et il conçoit les natures pour qu'elles existent selon leur diversité. Et enfin, il les conduit à faire ce pourquoi elles sont faites. C'est-à-dire qu'il les guide, il les fait agir. Et là, je suis en train de bouger ma main pour essayer d'expliquer et faire agir, eh bien, je ne bougerai pas ma main si Dieu ne causait en moi cette action de bouger ma main, et de faire en sorte qu'il cause le fait que je cause en parlant, mais en bougeant ma main aussi. Et dans la manière de Dieu, pour Dieu de gouverner, ce qui fait la particularité de cette action par rapport à l'action de créer ou de distinguer, c'est que l'action de gouverner implique l'association de créatures à cette action de gouverner. Thomas le justifie en disant, quand vous prenez quelqu'un qui, le vrai chef, eh bien, c'est celui qui ne craint pas de déléguer, d'utiliser des ministres, des associés, à qui il donne des ordres, et en les associant, il va leur donner la dignité, à eux aussi, d'être cause à l'égard des autres. De sorte que le gouvernement de l'univers est un gouvernement dans lequel Dieu gouverne tout, et de manière immédiate, mais immédiate en associant les créatures à son œuvre pour guider l'univers là où il veut le mener. Et donc, on va avoir dans ce gouvernement deux types d'ordre, c'est-à-dire de manière dont les créatures servent aux autres et servent à guider, à aller vers le bien de l'univers. La première manière, c'est ce que saint Thomas appelle un ordre par soi. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre par soi ? Eh bien, c'est un ordre dans lequel ce qui est utilisé par les agents principaux est utilisé à la manière d'un instrument en vue d'un effet que l'agent principal veut insérer. Oui. Par exemple, ici, je me sers de ma voix, je me sers de ma main comme d'instrument, d'organe, pour aider à communiquer ce que j'essaye de communiquer de théologie, de contenu de la théologie. Et donc, ici, ma main et ma voix servent à faire de la théologie. De soi, ma main et ma voix ne font pas de théologie. C'est pas possible, les cordes vocales ne font pas de théologie. Mais parce qu'elles sont insérées dans un ordre par soi, elles vont servir à faire de la théologie. C'est quand même magnifique pour la main et pour les cordes vocales. Bien. Donc ça, c'est l'ordre par soi. Et de la même manière, quand je suis religieux, je dépends de mon prieur, eh bien, je m'insère dans un ordre par soi, qui est mon ordre religieux, eh bien, et dans lequel j'obéis à ce que me demande mon prieur. Hein, c'est un ordre par soi. Et puis, à côté de cela, il y a ce que Thomas appelle les ordres par accident, c'est-à-dire tout ce qui est de la conjonction des causalités qui viennent de la proximité des choses les unes par rapport aux autres. Et ici, l'ordre par accident, c'est un ordre qui est dans lequel les choses ne servent pas les unes pour les autres, mais elles, sinon, parce que, par fortuitement, ou parce que elles se sont rencontrées et qu'elles se mettent à agir comme cela. Donc, exemple de différence, la nature de l'eau a une action dans le gouvernement divin qui est pour laquelle elle est visiblement faite, qui est de favoriser les échanges chimiques, et notamment tous les échanges chimiques liés à la vie. Et à quoi est-ce qu'on le reconnaît, cela ? Eh bien, à une chose très simple, c'est que quand on prend la carte, la Suisse pour chercher les déserts, il n'y en a pas trop, mais en France, ou vous prenez l'Afrique, vous regardez les cartes où il pleut beaucoup et les cartes où il ne pleut pas beaucoup. Les cartes où il pleut beaucoup, c'est vert. Les cartes où il ne pleut pas beaucoup, c'est pas vert. Oui. Et autrement dit, ça ne veut pas dire que l'eau soit la cause de la vie. Oui, ça, c'est la grande erreur donc de ces nouveaux animistes, hein, ceux qui pensent qu'il suffit d'agiter des molécules pour obtenir des choses vivantes. Mais non, c'est pas comme ça. L'eau n'est pas faite pour faire de la vie. Mais l'eau est faite pour servir dans un ordre par soi, au service de la vie et au service de tout un nombre d'échanges chimiques. Ça, c'est un ordre par soi. En revanche, le fait que dans notre système solaire, les planètes, si bien qu'on, ce soit de telle manière qu'elles aient telles elliptiques, etc., ça, c'est un ordre par accident. Oui. C'est-à-dire que vous avez un satellite qui tourne, et puis si jamais il était attiré par quelque chose de plus puissant, bah, il sortirait de l'orbite et puis il entrerait dans une autre orbite où il serait absorbé par quelque chose. Ça, c'est de l'ordre par accident. Oui. Ça ne fait pas partie de ce pourquoi elles sont faites.
Mais si on déplace un tout petit peu la Terre de son orbite, il n'y aurait plus de vie.
Oui, non, mais ça veut dire
c'est
que...
C'est pas si accident que ça.
Non, alors, j'entends bien, hein, mais ce que je veux dire, attention, par accident, ça veut dire que le Soleil n'était pas de toute éternité fait pour gouverner la Terre, pour attirer la Terre et faire en sorte que, voilà. C'est-à-dire, la nature du Soleil n'est pas de faire tourner des Terres. En revanche... Il est de la nature du Soleil d'attirer des choses, qu'il y ait des choses qui tournent, et il se trouve que par accident, c'est-à-dire par la providence de Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il y ait cette Terre autour d'un Soleil, et que...
Ils sont formés ensemble, quand même.
Tout à fait.
Terre et Soleil, tous se sont formés plus ou moins au même moment.
Je vais le dire d'une autre manière. Est-ce qu'il y a dans les atomes qui composent le Soleil et la Terre, est-ce qu'il y a inscrit qu'ils allaient faire un Soleil avec une Terre à cette distance ? Non. Et c'est ça, voilà. Et donc, ça veut dire que c'est dans une providence des événements, si on peut dire, c'est ce que je veux dire, c'est la distinction d'une providence des événements à une providence qui vient de la nature. Hein ? La providence qui vient de la nature, c'est que partout où il y a de l'eau, la vie va pouvoir pousser, va pouvoir se développer. Ça, c'est inscrit dans la nature de l'eau. En revanche, le fait qu'il y ait des atomes n'implique pas qu'il va y avoir la vie, n'implique pas qu'il va y avoir la Terre et le Soleil. Ça vient de la direction des événements accidentels par Dieu. Dernier petit point, enfin oui ou avant dernier, oui dernier petit point avant ma conclusion. Je voulais aborder la question du mal, mais Fabrice a déjà lancé le sujet. On pourra en rediscuter. C'est que les créatures, dans cet ordre de l'univers, elles opèrent dans les limites de leur nature. En effet, une nature, c'est à la fois une capacité à être principe d'un mouvement. Une nature est faite pour quelque chose. La lavande est faite pour ce qu'elle fait là. Mais en même temps, c'est aussi une limitation. C'est-à-dire que la lavande, ne peut pas me servir à écrire. La lavande ne m'offre pas un écran pour que je puisse lire mes textes. Autrement dit, les natures sont des limites en même temps que des perfections et des dispositions à quelque chose. Et c'est ce qui fait que les natures, elles ont une certaine finalité qui est leur propre préservation. De sorte que les individus dans une espèce, dans une nature, se rapportent à leur nature comme ayant en vue le bien de leur nature. Et tout individu, il est d'abord et il est nécessité à avoir en vue le bien de sa nature. Et puis, au-delà de sa nature, le bien dans lequel il intervient, c'est dans l'ordre par soi, on pourrait dire l'écosystème, dans lequel il intervient. Et puis, au-delà, il a comme but de servir au bien de l'univers. mais toujours dans la limite de ce qu'il est. Et ceci se manifeste particulièrement dans les grandes différences de nature entre la nature corporelle, qui a un appétit pour le bien, mais qui a un appétit sans connaissance. Et donc, la manière pour les corps d'être principe de mouvement, c'est toujours d'attendre que quelque chose les remue. Ouais. Et d'attendre quelque chose que quelque chose les remue, et ensuite de ne faire que aller là où les portes leur portent leur forme. Et là où, en revanche, dès qu'on voit apparaître une vie avec une connaissance, c'est-à-dire les animaux, les hommes, et peut-être les plantes d'ailleurs, dès qu'on voit apparaître une vie avec une connaissance, une certaine forme de connaissance, connaissance sensible, connaissance intellectuelle, eh bien, on voit que les natures se portent vers des choses qui leur conviennent. Elles ont plus de maîtrise sur leur mouvement. Et elles se mettent à aller vers ce qui est leur bien d'elles-mêmes. Oui. Il n'y a qu'à voir, c'était le blob. C'est le blob, hein. Fabrice a fait un article sur le blob, donc cette espèce de je sais pas quoi, de champignon, de
on sait pas trop. On n'arrive pas à classer ça.
Voilà. Qui est tout à fait fascinant parce que c'est.
C'est pour ça qu'on la classe parmi les champignons, parce qu'il y a une sporulation.
D'accord.
Mais en fait, on
sait. Et ce qui est tout à fait fascinant dans le blob, c'est que il y a des choses qui ne supportent pas. Alors je sais plus ce que c'est. C'est l'eau. Qu'est-ce qui supporte pas? Et si on lui met du sucre, il cherche le sucre, il aime le sucre. Sa forme fait qu'il aime le sucre. Pourquoi il aime le sucre? Parce que le sucre nourrit son activité et il cherche le bien de sa propre forme, sa perfection, et il cherche le bien de son espèce et le bien de l'univers par là. Donc, et si on met un obstacle entre lui et le sucre, eh bien, il va arriver à contourner l'obstacle pour aller vers le sucre. Donc c'est tout à fait fascinant de voir à ce niveau de faiblesse de nature, hein, c'est une nature vraiment minimale, le blob, de voir cette capacité, cet attrait vers son bien qui...
Mais même le blob, en fait, quand on... Donc une scientifique, Audrey Dussoutour, à qui Toulouse est d'ailleurs, a travaillé sur le repas optimal du blob, ce qu'il préférait vraiment, en fonction du... de certaines quantités, de certaines proportions. Et alors, quand il y a ce repas optimal et d'autres moins bons, il va tout de suite vers ce qu'il y a de plus diététique, disons, pour lui. Et si on lui propose trois flancs qui sont tous non diététiques, avec certains trop de sucre, d'autres trop de protéines, etc., eh bien, le blob va se vasculariser sur les différents flancs et va recomposer le régime diététique pour lui. Ce qui fait que, du point de vue diététique, il a une intelligence supérieure à la nôtre, qui non vit dans la malbouffe. Et alors, à cause de ça, on pourrait dire, le blob est plus intelligent que l'homme si on considère que l'intelligence consiste à trouver des solutions optimales à notre survie. C'est-à-dire parce que le blob, c'est automatique. Alors que nous, on fait des tas de bêtises, on va dans tous les sens. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que là, on voit une nature, justement, qui a une perfection et qui n'a pas de délibération, donc qui n'a pas aussi la faiblesse chez nous de la délibération, quoi. Mais souvent, c'est le modèle de l'intelligence artificielle, c'est le blob.
D'accord. C'est ça, en fait. Alors, juste une petite précision, c'est... alors, ici, du point de vue du théologien, hein, je m'abstiendrai de parler d'intelligence du blob. Pour moi... Un intellect, une intelligence, est forcément, c'est une nature spirituelle, forcément spirituelle. Et donc, pour ce qui est des modes de vie animaux ou végétaux, je parlerai de connaissances, hein, connaissances sensibles, et par le biais de beaucoup, de très peu de sens. J'imagine que le blob, c'est seulement par le... Enfin, est-ce que c'est simplement par le toucher? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? J'en sais rien. En tout cas, il y a clairement une connaissance sensible avec un instinct qui le conduit de manière tout à fait déterminée et déterministe vers son bien. Pour l'animal, la dimension sensitive, la vie sensitive est beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de recomposition entre les sensibles, donc dans des sens internes, et ce qui donne à la nature animale une infinie plus grande flexibilité, et une flexibilité infinie, enfin beaucoup plus grande que les végétaux, et aussi des éléments qui sont tout à fait fascinants, enfin de voir l'inventivité de la nature animale. Là où au contraire, hein, pour l'homme, cette connaissance, elle est d'ordre intelligible. C'est la capacité à saisir dans les choses leur essence, ce qu'elles sont. Bien, je voudrais juste finir cette petite présentation. Je suis désolé, j'ai pas tout. Peut-être je vais juste reprendre. Oui, non. Oui. Non, je vais m'arrêter là. Je vais juste finir en conclusion, quelques petites remarques sur cette théologie de la nature. Tout d'abord, il me semble que il ne faut pas évacuer de notre vie cet émerveillement ou ce côté mystérieux que nous avons quand nous sommes face à des natures. J'ai eu l'occasion là récemment de côtoyer un animal que j'aime énormément, qui est l'âne, peut-être pour des affinités particulières, mais et l'âne est une nature, c'est absolument fascinant. Mais après, chacun a ses natures qui est préférée. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, et il ne faut pas quitter cette aperception première par nos sens de ce que nous sommes face à quelque chose de mystérieux. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que ce mystère que nous avons devant nous d'une réalité qui a une forme et qui a en elle un principe de mouvement, une certaine activité, et qui produit des effets dont les sciences aujourd'hui nous montrent le foisonnement de manière incroyable, eh bien, c'est ce que nous avons comme témoignage de la perfection divine que Dieu nous a laissé. Oui ? Et que, dans ces natures, nous avons des ressemblances de Dieu. Ressemblant, j'ai dit, hein, non pas sur le mode d'une émanation de nature, mais sur le mode de ce que Dieu a voulu nous montrer de sa perfection et a voulu nous indiquer, ou il a voulu peupler notre monde de cela pour nous conduire à lui. Et donc, quitter cet émerveillement, quitter ce sens du mystère face aux natures, perdre ce sens du mystère, et notamment ce sens de leur fin, eh bien, c'est perdre le sens de Dieu. Deuxièmement, échapper aux deux tentations que j'ai dites, la tentation de l'animisme, hein, qui va contre la foi en la création, mais aussi une certaine tentation à la réduction des natures à simplement des propriétés, et des propriétés maniables technologiquement, etc., pour ne pas perdre le sens des natures et de leur diversité. Ce qui rend aussi les natures si importantes pour nous, c'est qu'elles nous apprennent la sociabilité, puisque nous sommes nous-mêmes une nature, nous appartenons à une nature, et donc nous sommes intrinsèquement sociables. Nous avons en nous l'ordination, ou bien de notre espèce, ou bien des ordres dans lesquels nous sommes insérés, et ou bien de l'univers entier. Et donc, ce sens de la nature, retrouver le sens de la nature, c'est retrouver un sens d'une direction de ce vers quoi nous allons, dans lequel ce n'est pas nous qui fixons les fins, mais ce sont des fins que nous discernons dans un monde qui est lui-même pétri par les fins. C'est pour cela que, par exemple, je prendrai ça comme point de contraste entre la manière pour la cosmologie de nous présenter l'avenir de l'univers, on l'a vu, notre avenir du point de vue de la cosmologie, c'est de finir en glaçon, et avant que le glaçon ne soit explosé par l'explosion du soleil. Oui, si j'ai bien compris.
Ça, c'est même pas la cosmologie, ça, c'est juste le système solaire.
Oui, voilà. Oui. Non, mais, alors après, voilà.
Un noir beaucoup plus grand.
Voilà, bon.
Beaucoup plus fort.
Donc voilà. Ça, c'est... Et c'est tout à fait juste de le faire, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait ? On regarde des natures dont on observe les propriétés, et on extrapole ce que ces propriétés nous disent de ce vers quoi elles vont. Mais ça, c'est l'histoire des natures corporelles auxquelles nous appartenons, puisque nous sommes faits des mêmes atomes, ou des mêmes particules élémentaires. Mais, cependant, c'est l'histoire des corps. L'histoire de l'homme, en fait, elle est un peu différente. Et l'histoire de l'homme, c'est la finalité, la béatitude. Et à la vérité, je sais par la foi que l'histoire de l'univers, en réalité, il est pour l'histoire de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est, au sommet de la création, celui qui, entrant dans la béatitude, fera rentrer avec lui, et il entrant dans la béatitude, y compris selon son humanité, selon sa corporéité, pardon, fera rentrer dans la béatitude l'univers des corps et de tout ce qui, de toutes les natures qui composent l'univers. De sorte que, oui, l'univers des corps, l'univers des astres, a un avenir qui est décidé par les lois des astres. Mais je sais qu'en réalité, cet univers, il aura sa fin d'une autre manière, qui sera dans l'assomption de toutes choses, à la résurrection des morts, et lorsque Dieu sera tout en tous. Et je m'arrête sur cette considération prometteuse.
Telle que la cosmologie nous présente, et telle que de toute façon, elle est vouée à la dégradation, elle a été livrée au pouvoir du néant. Est-ce qu'on pourrait dire que cet écart entre le télos concret, en fait, des natures, et l'eschaton cosmique, je ne dis pas l'eschaton surnaturel, bien sûr, mais l'eschaton, est-ce que c'est ça, en fait, cet écart-là qui crée le gémissement ? C'est-à-dire, on voit bien que dans l'ordre des natures, tout est fait pour une sorte d'interdépendance qui va dans le sens d'une diversité, de la vie, etc. Mais ultimement, ce que dit la cosmologie, c'est que ça va disparaître.
Je me suis posé la question en t'écoutant. Par exemple, c'est une question que je n'ai pas abordée, on ne pouvait pas tout aborder, qui est la question de... Pour moi, tout ce qu'on appelle mal, oui, la théologie théologie de ce que c'est qu'une nature, oblige à faire des distinctions qu'on ne fait plus, à savoir entre le mal de défaillance. La défaillance, c'est la nature qui, de manière générale, produit son effet, mais il y a des moments où ça loupe. Oui. Et il y a des loupés dans tout ce qui est de la nature, parce qu'il s'agit d'une nature qui n'est pas pleinement en acte, qui n'est pas dans une perfection suffisante, pour assurer que toutes ces opérations s'accomplissent toujours comme il faut.
Parce qu'elle est matérielle et qu'elle n'est pas au hasard.
Exactement. Et donc, ça fait partie de ce qui fait la limite intrinsèque d'une nature corporelle, voire même d'une nature limitée, tout simplement. Hein, parce que même l'homme, c'est pas seulement par sa matière, mais même spirituellement, il a une capacité à faillir. La deuxième chose, c'est la corruption. Tout ce qui est corporel est fait pour être corrompu, est fait pour être engendré et corrompu. Que les fourmis meurent, que les lions meurent, que mon petit chat, au bout de 18 ans, je le retrouve un matin effondré, que je le mette pour faire... que les tulipes en profitent, ça fait partie de ce qu'est une nature corporelle. Hein. Et ça, c'est quelque chose... Le refus actuel de la mort de l'animal, ou de la mort de l'homme, hein, de la mort naturelle, j'entends, c'est un refus de ce que c'est qu'être un corps. Oui, c'est-à-dire, on veut deux choses contradictoires. Je veux avoir un corps, mais je ne veux pas que ce corps meure. Ça fait partie de ce que c'est qu'un corps. Oui. Donc, corruption, ça c'est un mal, et c'est un vrai mal, hein, qui est inclus dans ce que c'est qu'une nature. Et puis, troisième aspect, qui sont les mots de faute qui viennent du péché, qui viennent du péché, et les peines qui sont liées au péché. Alors, il me semble que dans l'expression des gémissements, il me semble que ces gémissements... Alors, est-ce que c'est seulement le mal de peine qui est encore... dont Dieu a permis qu'il soit encore présent jusqu'à la récapitulation, hein, et que nous fassions l'expérience de la force de la grâce de Dieu dans notre faiblesse. Donc, pour toutes les peines qui viennent des fautes, qui résultent des fautes, ou est-ce que cela inclut aussi les défaillances liées à la nature? Il faut accepter d'avoir mal à la hanche, d'avoir un pied fragile. Qu'est-ce qu'un pied fragile, là? Non. Voilà. Donc il faut accepter d'avoir un pied fragile, il faut accepter d'avoir des boutons de chaleur, d'avoir... ça fait partie des limites. Est-ce que ça fait partie du gémissement? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais plutôt tendance à dire c'est le mal de peine. Mais peut-être que ça inclut les défaillances et la corruptibilité. Je ne sais pas, il faudrait demander, frère Bernard.
Vous avez utilisé le mot « hasard ». Fabrice vient de le reprendre. Mais quelle est la place du hasard dans un contexte théologique? La question de l'ordre par soi. L'eau, il y en a partout, dans l'univers. Pas spécifique à la Terre.
Oui.
Pourtant, la vie, elle n'est pas partout.
Oui.
Je n'ai pas compris bien l'histoire de l'ordre.
L'ordre
par soi.
Oui.
D'abord, le hasard m'intéresse plus.
Oui. Je n'ai pas plus réfléchi que ça à la compatibilité avec les conceptions du hasard dans les sciences actuelles. Bien. Je vais dire du point de vue de ce qui est pour la théologie. Le hasard, c'est la rencontre de deux chaînes de causalité par accident. Oui, c'est-à-dire que le fait que là je bouge ma main, ma main est l'instrument de mon cerveau et de mon âme. Oui. Et donc ici, il n'y a aucun hasard dans le fait que je bouge ma main. Oui. En revanche, je bouge ma main et en bougeant ma main, je rencontre ça qui se trouve là.
Est-ce que c'est un hasard?
Oui, au sens où c'est la... Alors, si vous voulez, où je rencontre... Je vais le dire d'une autre manière. Je bouge ma main, et là, il y a une fuite d'eau, et il y a une goutte qui tombe, et qui tombe juste sur ma main à ce moment-là. Oui, ça, c'est un hasard. Deux chaînes de causalité. Une chaîne de causalité qui est la fuite d'eau, et une autre chaîne de causalité qui est ma main. Et ça pour le théologien, c'est le hasard.
C'est une définition thomiste des hasards, ça?
Oui.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, du point de vue de... Le hasard, il existe par rapport à la... Il est dans la création. Et c'est à partir du point de vue de la création. Et il y a deux types de hasard. La rencontre de deux séries causales indépendantes, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi l'instabilité de la matière. Qui peut de lui, d'elle-même aussi produire quelque chose.
C'est pas faux.
Ouais. Donc les deux existent dans la pensée d'Aristote, mais après, du point de vue théologique, du point de vue de Dieu, il n'y a pas à proprement parler du hasard. Son action, elle, n'est pas par hasard.
Il peut agir
de telle sorte que le hasard serve sa
propre. Non, je vais rajouter.
C'est une façon de dire.
Je vais rajouter.
C'est un hasard réel dans la création.
Si je peux rajouter.
Mais enfin, c'est pas du même ordre.
Rencontre.
De quelle part s'agit de ce hasard?
Je peux me permettre. Rencontre de deux chaînes causales indépendantes. Oui. Ça fait un ordre particulier de causalité. C'est-à-dire que ces deux sortes de causalité se rencontrent et donc elles forment un ordre entre elles, même si c'est un ordre par accident, ou si vous voulez, par hasard.
Bien. Non, je ne comprends pas. Par hasard, je ne comprends pas.
Alors, et dans cet ordre particulier, rien ne destinait à ce que que les deux chaînes de causalité se rencontrent à cet endroit-là. Mais du point de vue de Dieu, ce hasard, il est simplement limité à cet ordre particulier. Autrement dit, le hasard, c'est à l'intérieur d'un ordre particulier de causalité, que ce soit par accident ou de cause par soi. Oui. Oui.
En admettant que la lavande
et l'eau.
Ah oui, je vais y aller. Pardon.
En admettant que la lavande soit le fruit du croisement de deux espèces, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la nature, c'est juste la finalité. Tant que la finalité ne change pas, donc la nature ne change pas.
Le fait que la lavande a pu être sélectionnée par l'homme, par exemple.
Ou alors modifiée même.
Oui.
Parce que ça n'est pas la nature, mais l'homme.
C'est. Ce qui est le grand apport de nos connaissances biologiques aujourd'hui, c'est de nous avoir sortis je disais tout à l'heure, Thomas envisage les espèces comme des nombres entiers, hein, qui se succèdent comme des degrés dans une suite de nombres entiers. Et
c'est mieux, de nombres naturels.
De nombres naturels, merci. Merci.
Et, okay, ça serait moins en moins.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est sûr, à l'époque, une vision assez statique de ce que sont les espèces. Oui. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est combien, en réalité, notre compréhension à nous des espèces, elle cherche toujours à figer les choses parce que on est bien obligé de dire oui, ça. Cette nature-là, c'est pas la même nature que ça, que la plante d'à côté. C'est pas la même nature, ça c'est clair. Maintenant, quand je cherche à dire, mais en quoi est-ce que c'est différent? Alors là, je vais sans doute trouver des éléments de différenciation très nets, et notamment, enfin bon, j'en sais rien, je ne veux pas me lancer, vu mon expérience avec les orchidées, je ne veux pas trop me lancer sur des questions botaniques, mais en revanche, ce qui est clair, c'est que les espèces ont une certaine flexibilité et qu'on voit que à la fois les natures, elles sont là, elles existent, parce que notamment ça se voit sur l'interfécondité ou l'absence d'interfécondité. Hein, l'absence d'interfécondité, c'est les natures sont trop distantes. Ouais. Mais en revanche, on voit qu'il y a des niveaux tout à fait intermédiaires dans lesquels on se dit, mais est-ce que ça appartient à telle nature, de telle autre? Est-ce que c'est deux natures différentes? Très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Mais donc il y a une beaucoup plus de grande fluidité qui nous apparaît des natures. Mais ça n'empêche que nous ne pouvons pas faire l'économie des natures. Oui. Parce que quand bien même nous voyons cette fluidité, il y a un moment où ça ne sera plus la même nature. C'est-à-dire il y a un moment où il y a un changement de substance. Cette telle nature n'est pas telle nature. Et c'est ça qui, à mon avis, demeure.
Donc aujourd'hui, il pourrait y arriver que dans les plantes, par exemple, on trouve des choses qui soient des artefacts, même qui poussent dans la terre, comme ça, si on pousse le...
Ce n'est pas des artefacts. Quand vous prenez une plante et une autre, et que vous mêlez leur semences pour former une nouvelle plante, vous avez simplement... C'est vous qui êtes l'instrument des plantes. Oui, vous pensez que vous vous servez des plantes. Non, c'est les plantes qui se servent de vous. C'est-à-dire qu'elles se servent de vous comme elles se servent des abeilles, comme elles se servent du vent, c'est-à-dire pour se féconder.
Y compris s'il y a une modification génétique.
Y compris s'il y a une modification génétique.
Parce que le dynamisme, le principe restera après celui de la plante. Maintenant, c'est vrai qu'on introduit quand même parfois des finalités humaines, finalement. Et c'est là où il y a une ambivalence, en fait, dans ces objets-là. Un OGM a...
Alors ça, c'est... Oui, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ouais. Et notamment, alors, je pense, c'est là où on voit ce qui devient très problématique, c'est lorsqu'on insère des parties de code d'animaux dans des plantes. Là, on commence à jouer avec les natures, justement. Hein. Mais il faut bien être conscient qu'en réalité, on ne crée rien. On va détruire les natures. Hein, c'est-à-dire que on fera soit des choses qui dégénèrent, soit des choses qui vont produire des effets en fait, qui ne sont plus les effets pour lesquels ces natures sont faites. Ou en tout cas qui auront des inconvénients. Je reviens un instant sur la nature de l'eau. La nature de l'eau... Il est difficile de... C'est... La question de la découverte des finalités est compliquée, parce que très facilement, on met des anthropomorphismes. Oui. Et donc, on va dire, l'eau, sa finalité, c'est la vie. C'est de disposer à la vie. À la fois, je pense que ce n'est pas faux. Peut-être que sa finalité, c'est plus largement d'être un milieu favorable à des échanges chimiques, à un certain type d'échanges chimiques. Et que... mais peut-être que Dieu a voulu effectivement l'eau...
Des océans entiers sur les satellites de Jupiter.
Oui.
Il n'y a peut-être pas de...
Oui. Mais il y a des échanges chimiques. Non ?
Je ne sais pas.
Même pas ? Peut-être pas.
Peut-être pas.
Oui, oui. Mais il faut bien être... encore une fois, là... L'objection, ça va être, ah oui, mais il y a tellement d'eau, il y a tellement d'eau qui sert à rien. Oui, mais dans une compréhension de l'univers selon les natures et selon les degrés de nature, le fait qu'il y ait beaucoup de planètes sur lesquelles l'eau ne sert strictement à rien...
D'ailleurs, l'eau sur la Terre est arrivée par les comètes.
Oui, alors, d'accord.
Elle n'était pas là.
D'accord.
Elle a été amenée par ailleurs.
Et donc, en tout cas, le fait qu'il y ait de l'eau... Ça valait la peine qu'il y ait de l'eau dans tout l'univers qui serve à rien pour qu'il y ait de l'eau sur la Terre qui serve à la vie. Voilà. Parce que la vie...
Oui, mais encore, je suis douteuse de l'ordre par soi et de l'ordre accidental, parce que ça me paraît très important aussi qu'il y a la Lune qui tourne autour de la Terre pour que la vie soit possible, autant que l'eau.
Je comprends.
Il y a une interdépendance de toutes ces choses.
Voilà. Sans la Lune, il n'y aurait pas de stabilisation de l'axe de rotation de la Terre. Alors, ça serait un petit...
Ce que je veux dire, c'est que si vous trouvez des mécanismes naturels qui font que partout où vous avez, je ne sais pas, une étoile à hélium, partout vous aurez de la vie, ou dans la majorité des cas, eh bien là, ça veut dire que vous avez un ordre par soi.
Là, on pourrait y croire, mais à l'instant, je ne peux pas y croire.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que, pour qu'il y ait la vie, il faut non seulement qu'il y ait un ordre, des choses qui, selon un ordre par soi, vont disposer à la vie, faire un milieu propice à la vie. Il faut des causalités par accident, c'est-à-dire notamment le fait que des astres se retrouvent à un moment liés les uns aux autres et que de telle manière, à telle distance, etc. Et ça, c'est à nouveau la providence divine. Donc, tout ça, c'est la providence divine. La providence divine va faire de l'eau pour en faire un milieu favorable à la vie, va diriger les planètes de telle sorte que leur cours soit favorable à l'apparition d'une Terre sur lequel il y a de l'eau, sur lequel va y avoir de la vie, et à la distinction de natures particulières qui sont des natures vivantes. C'est ça, c'est tout ça, en fait. Et du point de vue de la théologie, ce que je veux dire, c'est que du point de vue de la théologie, ça répond à des principes différents.
Très, très particulière, je ne vais pas vous avancer tous sur ça. Pourquoi le fait que l'orbite de la Terre soit où elle est en ordre accidental et l'eau soit en ordre par soi? C'est ça que je comprends pas, cette distinction.
Il n'était pas inscrit dans la Terre, la planète Terre.
La Terre n'est pas venue après que le Soleil était là et se sont formés tous ensemble.
Oui. Alors on va dire la chose suivante. Est-ce que dans le Big Bang, il y a déjà inscrit le déterminisme pour qu'il y ait la Terre et le Soleil à telle distance?
Même pas l'eau, il est inscrit dans le Big Bang. Si c'est la question se pose dans ce terme,
non.
L'eau est pareille.
Ah d'accord, mais attention, la Terre et le Soleil ne sont pas des espèces, ne sont pas des natures. Oui, ce sont des astres. Oui. Je pense que dans les composants originaires de notre univers tel qu'il est, tous les éléments, par exemple...
Les éléments sont apparus...
Mais j'ai l'impression qu'il y a un débat, il faudrait qu'on arrête, mais un débat qui est un peu... Parce que c'est deux points de vue différents, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui est généalogique, donc de savoir si les choses sont apparues par accident... Ou si elle devait apparaître par soi. Enfin, ce n'était pas exactement ton point de vue.
Non, moi, je
Juste ontologique, en fait, qui est à la limite synchronique, quoi, qui n'est pas lié à la genèse des choses. Parce qu'en fait, tous les ordres par soi, du point de vue cosmologique, on peut les voir comme venant d'accidents. C'est-à-dire, ça aurait pu ne pas avoir lieu.
Je dirais ça d'une autre manière.
Oui, mais c'est parce que c'est le point de vue généalogique.
C'est ça d'une autre manière. Dans tous les composants du Big Bang, il y a c'est ordonné à faire des planètes, ou à faire des étoiles. On est d'accord. Ou à faire des amas, ou
ça
à faire des...
Ça ne pourrait être pas, parce que si la vitesse de la lumière était un peu moins, ou si la constante cosmologique était un peu plus, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes. Pourtant, il y aurait un Big Bang.
Bon. Eh bien, voilà. Bon, là, on voit, bon, très bien. Très bien. Très bien. Même...
Non, mais les constantes ne sont pas apparues au moment du Big Bang, c'est ça ce que je veux dire.
Il est déjà là.
Bon. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. On va s'arrêter là. Donc, il est 18h10. Normalement, la messe était à écart. Donc, je vous propose, qu'est-ce qu'on dit ? À 30. Donc, messe à 18h30 à la chapelle. Je vais prévenir le prêtre. Non, parce que c'est pas toi qui célèbre.
Si.
Ah si, c'est toi.
Il est là.
Je crois que c'était toi qui célèbre.
Ou si.
Ah,
mais je lui ai proposé de le faire parce que sinon il avait...
Donc, j'ai déjà informé. Alors, à 18h30.
Bravo.